Bonjour à toutes et à tous, René avec vous, l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour le magazine Lila Info, un magazine que vous retrouvez tous les mercredis entre 16h et 16h30. Bien sûr, un magazine qui vous parle de Lila 1. Chaque semaine, nous abordons un thème différent de cette université, Lila 1. Et cette semaine, nous allons parler d'un prix, le prix André Lebrun, un prix dédié à la formation tout au long de la vie et qui est destiné à récompenser un auditeur de la formation continue de l'université qui termine un cycle de formation exemplaire. Pour aborder ce sujet, j'ai invité M. Jacques Duvaux, qui est président de l'ASA, Association de solidarité des anciens de l'université Lila 1. Bonjour M. Duvaux.
Bonjour.
Alors, cette association ASA est ancienne maintenant, hein, elle est structurante, on peut dire, pour l'université et notamment pour les gens qui ont terminé leur parcours professionnel dans l'université et qui continuent de rester en phase avec cette université.
Effectivement, l'ASA a été créée en 1991, donc ça fait maintenant 23 ans. 1991, ce sont des enseignants et des personnels, parce qu'on regroupe toutes les catégories de personnel, c'est notre vocation, de ne pas discriminer entre les différentes catégories. Ce sont des personnels qui ont été recrutés dans les années 60-65, donc au moment où il y avait des transformations extrêmement importantes à l'université, puisque l'université se créait, il y a un lien social fort qui s'est créé, ils ont souhaité, au moment de partir en retraite, conserver ce lien social, non seulement entre eux, mais aussi conserver ce lien social avec l'université. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on développe des activités qui sont des activités à destination de nos adhérents. Nous sommes actuellement environ 500 adhérents. Ce n'est pas une association donc négligeable du point de vue des effectifs. Donc des ateliers de créativité, des ateliers de voyage, des ateliers culturels, etc. Et en même temps, comment dirais-je, on a encore une relation à l'université par le biais de la conservation des instruments anciens. On a toute une équipe qui travaille sur la conservation des instruments de mesure anciens d'université ou par un travail sur la mémoire de l'université. Et là, on a pas mal de pertes de collègues qui continuent à travailler sur l'histoire de l'université. Et puis à côté de ça, on a des actions de solidarité. Solidarité entre nous, anciens, mais solidarité aussi vis-à-vis des autres, pas que les étudiants. Et je dirais que le prix André Lebrun est un de ces aspects de la solidarité intergénérationnelle qui a été voulue, effectivement, par André Lebrun.
Alors, tout d'abord, vous êtes président de l'ASA, donc cette association de solidarité des anciens Lila. Comment devient-on président de l'ASA ?
Comment devient-on ? Alors, on va être honnête, on vient par un vote. Hein. Mm-hmm. Il y a un vote, il y a une assemblée générale. Il y a, un conseil d'administration. Et puis, on est élu par le conseil d'administration et puis pour être président. Je ne vais pas cacher, comment dirais-je, que quelque part, on cherche aussi parmi les candidats quelqu'un qui connaît un peu l'université, qui peut encore avoir des relations avec l'université, ce qui est mon cas. Hein, donc, effectivement, on recherche effectivement un peu des candidats qui ont eu des fonctions universitaires pour permettre effectivement de faciliter les relations entre les directions, entre la direction université et puis l'ASA.
Vous avez été président de Lila 1 ?
J'ai été président effectivement de Lila 1 de 1997 à 2002.
Voilà, et depuis toujours actif dans cette association ?
Ah non, en 2002, j'étais pas encore en retraite. après, comment dirais-je, j'ai une autre activité. J'ai présidé le pôle européen universitaire Lille Nord-Pas-de-Calais, qui est devenu le PRES et qui maintenant devient la commu. Hein.
Oui, voilà. C'est en stand-by. Voilà,
je ne peux pas dire parce que quand maintenant je suis en retraite, vraiment.
Ouais,
On ne dira rien.
Joker.
Donc, mais qui a préfiguré effectivement tous ces rapprochements. Et donc, je suis en retraite maintenant depuis 3 ans. Mmh. C'est donc à ce moment-là que j'ai repris des fonctions, comment dirais-je, à l'ASA. Mais le premier président de l'ASA, ça a quand même été effectivement André Lebrun, dont on parlera tout à l'heure.
Alors justement, l'ASA, comme on l'a dit, c'est une association, donc il y a des statuts, il y a aussi des rencontres, des réunions, et notamment l'une des plus importantes, c'est son assemblée générale qui a lieu le 20 mai.
Oui.
Et donc dans ce cadre-là, eh bien, ce prix sera remis.
Absolument. Nous remettrons le 20 mai le prix André Lebrun. C'est un prix de 1600 euros qui récompensera un auditeur dont vous avez dit qu'il avait eu un parcours de formation continue exemplaire. Mmh. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu, si c'est possible, sur André Lebrun. André Lebrun, c'est un fils de petit exploitant agricole qui est devenu professeur d'électronique à l'université, qui a eu une très belle carrière scientifique et qui a été toujours sensible aux problèmes, effectivement, de la protection sociale. Ça a été pour lui, comment dirais-je, un élément déterminant et fondamental que d'assurer la promotion sociale dont il avait bénéficié et dont il espérait faire bénéficier les autres. Et à ce titre-là, je dirais que ça a été un des pionniers de la formation continue en France.
On peut peut-être rappeler antérieurement hein, cette formation continue que j'ai connue moi avec le QEP ouais. qui avait des antennes, ouais. j'allais dire Roubaix, Tourcoing, mais même Salomine, ouais. près de Lens. C'était oui. un moment assez fort hein, où on décentralisait et on démocratisait une quelque sorte.
Oui, ça a été un moment assez fort. C'était un moment, je dirais même pas assez fort, c'est un moment extrêmement fort. Mm-hmm. Ça a été un moment extrêmement fort. Le QEPS a été créé par André Lebrun en 1970. Et parmi et vraiment son idée, c'était de sortir des schémas. Donc de casser les schémas existants. Et de favoriser, comment dirais-je, la promotion sociale du plus grand nombre. Pas de quelques-uns, du plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé à Salomine, ce qui s'est passé à Roubaix-Tourcoing, c'est effectivement de partir d'une population en difficulté sociale, en difficulté économique, qui manquait de qualification, de leur redonner de la confiance en eux, en développant effectivement, pas des formations classiques, mais justement de l'alphabétisation, de la connaissance du milieu socio-économique, même quelquefois de la coupe-couture. Hein, bon, donc tout un ensemble de choses qui peuvent peut-être paraître surprenantes aujourd'hui parce qu'on est passé sur la promotion sociale, elle a pris une autre dimension aujourd'hui et c'est une autre forme. Hein. Mais c'était vraiment un exemple de volonté de développer une promotion sociale sur un territoire. Ça, c'était vraiment un élément extrêmement fort et qui, je crois, n'était pas unique en France. Mais il y a eu peu d'endroits en France où c'est développé. Ça a donc été innovant. Et ça a permis de mettre en place tout ce qui s'est fait au CUEP par la suite et qui perdure aujourd'hui.
Alors effectivement, c'est un peu l'effet antériorité de l'île 1, donc légitimité aussi, qui a fait que cette université est la première dans le domaine de la formation continue.
Absolument, absolument. C'est à des personnalités comme André Lebrun qu'on doit effectivement d'être la première université en formation continue. Et pourquoi on est la première ? Parce que je crois qu'il y a toujours eu de l'innovation. Hein, ça a été effectivement, par exemple, la création d'abord du DAEU, diplôme d'accès à l'enseignement supérieur, l'équivalent du bac, mmh. qui maintenant est devenu, l'ESEU d'abord, qui est devenu le DAU, je me trompais effectivement dans le sens. Ça a été la création des unités capitalisables. Et ça, à l'époque, c'était quand même un petit peu révolutionnaire en 70 de créer ça. Et c'était toute une réflexion, comment dirais-je, à la fois de recherche sur ces dispositifs nouveaux. Et ça, c'est quelque chose qui demeure encore au CUEP au niveau de la recherche. Et c'est quelque chose qui a fait que l'université a toujours conservé un temps d'avance, avec en particulier la VAE, la VAP, la violation des acquis, etc., les différentes formes. Donc c'est clair.
Donc cette formation tout au long de la vie, maintenant, elle est reconnue, elle est appliquée partout en France, hein, dans toutes les bonnes oui. universités.
Oui. Oui, oui, on peut dire qu'elle est appliquée partout en France. Oui, oui, effectivement, elle est appliquée partout en France. Toutes les universités maintenant développent des programmes de formation continue. Je dirais que l'ILA reste encore, comment dirais-je, un modèle. Hein, parce qu'il y a quand même, à la fois le QEP et puis il y a aussi en même temps le Sud-Est qui suit effectivement les auditeurs, hein, donc c'est et qui est beaucoup plus lié, lui, le Sud-Est, à la formation à post-baccalauréat.
Juste une question de mots. Quand on dit auditeur pour vous, oui. par rapport à étudiant,
Ça, comment dirais-je, c'est peut-être un peu Menage qui fait ça. Hein. Moi, j'ai connu la loi Savary. Et la loi Savary parlait des étudiants et des auditeurs. Les auditeurs, ce sont des personnes qui ont eu une activité professionnelle, qui ont cessé d'être étudiants et qui redeviennent, alors étudiants, qui redeviennent auditeurs de formation continue. Et donc qui à la fois reviennent avec leur expérience professionnelle, avec leur vie personnelle et avec des contraintes qui sont des contraintes effectivement spécifiques qu'il faut prendre en compte.
Donc pour ces personnes qui ont des cursus totalement personnels souvent, atypiques aussi, l'idée c'est parfois de les mettre en valeur, comme ce prix André Lebrun, pour justement honorer, récompenser quelqu'un qui a un mérite particulier. Alors, comment vous sélectionnez ces personnes qui sont donc destinataires de ce prix André Lebrun ?
Quels sont les critères ? Alors, je voudrais dire en même temps un petit point, parce que je vais l'oublier après, c'est que pour nous, le prix André Lebrun, c'est effectivement le fait de reconnaître le parcours exemplaire de quelqu'un, mais c'est aussi reconnaître, essayer de faire reconnaître toute la valeur des équipes qui, dans la formation continue, accompagnent ces personnes. Il y a dans l'université tout un ensemble de conseillers de formation continue qui font un travail que l'on connaît mal, qui sont un travail d'accompagnant et qui permettent effectivement à ces étudiants de réussir. Donc je voulais aussi un petit peu leur rendre hommage parce que ça me semble quelque chose d'absolument nécessaire. Alors comment est-ce qu'on décide ? Bon, tout simplement, on fait un appel d'offres. Donc on a lancé un appel d'offres, ça fait maintenant 3 mois, auprès des composantes, auprès de l'université, dans l'hélico. Et donc les auditeurs font leur dossier, aussi un petit dossier qu'on leur demande. C'est un curriculum vitae, une lettre de motivation pour voir quel est leur projet, quelle est la cohérence de leur projet, quelle a été leur démarche, et puis un avis du responsable de formation. Voilà, donc un dossier qui est un dossier léger. Et ce dossier, il est examiné par un jury. Vous venez me demander comment il est composé, je présume.
Allons-y.
Alors, il est composé d'anciens présidents de l'ILA et d'anciens présidents de l'ASA. Voilà. Alors, pourquoi ? Ben, parce que c'est effectivement un prix qui est spécifique à l'ASA. Et puis, on a surtout voulu, en même temps, impliquer les anciens présidents en se disant que ça permettrait peut-être d'avoir une ampleur médiatique plus importante. Voilà, c'est aussi un peu l'idée. Donc, on se réunit. Et ce qu'on cherche à voir, c'est à la fois l'ampleur de la rupture entre le niveau de formation initiale et le niveau de formation, comment dirais-je, qui est présenté. Moi, ça fait 2 ans, je me souviens de quelqu'un qui avait terminé sa formation initiale avec un BEP. Et qui, 20 ans plus tard, terminait avec que c'était un Master 2 en sciences de l'éducation. Un parcours qui est un parcours remarquable, qui correspondait effectivement à un projet. C'est quelqu'un qui avait travaillé, comment dirais-je, dans le domaine des grandes surfaces, avec beaucoup de CDD, et qui finalement avait travaillé sur le problème de la formation des caissières. Et qu'à ce moment-là, s'est dit, mais je peux refaire autre chose, et qui avait passé, c'était au Sud-Est, je pense, un bilan de compétences, et qui avait décelé en elle la possibilité, effectivement, d'être formatrice. Donc elle s'est dit, je vais devenir formatrice de formateurs. Elle a abandonné son travail, elle a été au chômage, bon, elle a été rémunérée en partie, et elle a fait pendant 3 ans, effectivement, avec 2 enfants, elle a fait pendant 3 ans sa formation pour obtenir effectivement son diplôme à la fin. Donc, je ne dirais pas que c'est la première de la promotion. C'est pas l'excellence que l'on cherche, c'est pas l'excellence. Ce qu'on cherche, c'est véritablement la qualité, l'écart entre l'élément initial, l'écart entre ce qu'il y avait et la cohérence du projet.
Alors, vous l'avez dit, il y a un prix de 1 600 euros pour le lauréat. Est-ce qu'aussi, parallèlement, c'est une façon de l'encourager, bien sûr, mais aussi de faire reconnaître à son employeur, son entreprise ou ses futurs partenaires la valeur de son parcours ?
Bien sûr. Un tel prix, de ce point de vue-là, représente effectivement un plus. Ça représente un plus à 2 points de vue. Ça représente un plus parce que, comment dirais-je, je crois qu'il faut mesurer en même temps, on mesure peut-être mal, c'est tout ce qu'il a fallu faire comme effort, comme sacrifice, pour éventuellement pendant 5, 6 ans, moins parfois, suivre un enseignement de ce niveau-là et réussir. Donc il a fallu faire consentir des efforts. Quelquefois, ce sont des efforts qui se paient cher dans la famille. Il ne faut pas se tromper. Donc c'est quand même la reconnaissance, quelque part, de cet effort, de cet effort qui est fait. Et puis pour l'employeur, c'est aussi, malgré tout, c'est une reconnaissance d'une valeur. intrinsèque de la personne. Alors je veux dire quand même que pour les autres candidats, en général, on remet aussi une médaille. Hein, qu'ils peuvent mener, c'est la médaille André Lebrun qu'on remet aux ensemble des candidats.
Donc cette remise de prix, donc il n'y en a qu'un hein, quand même de prix.
Il n'y en a qu'un. Non, on peut pas aller. Non, 1600 euros, c'est ça, j'explique d'où ça vient, c'est un don qu'a fait Monsieur Lebrun.
Ah oui, c'est presque une fondation alors.
Ça n'a pas pu être une fondation. C'est donc un don qu'il a fait. Ce don, on l'a mis sur la caisse d'épargne, mmh. Il rapporte des intérêts, mmh. Et tous les ans, ce sont les intérêts de ce don que nous distribuons.
D'accord.
Mais comme aujourd'hui les taux d'intérêt, comment dirais-je, ouais. Ont un petit peu tendance à diminuer, eh bien on ajoute effectivement des dons de la part des adhérents de l'ASA. Mais on ne touche pas au capital. Hein, l'idée, c'est effectivement de préserver effectivement ce don de façon à ce qu'il puisse servir effectivement dans la durée.
Donc 20 mai 2014, Assemblée générale de l'ASA, qui est bien sûr réservé à ses membres, voire à quelques invités partenaires, c'est ça ?
Bien sûr.
La presse aussi, l'occasion de faire une photo du
lauréat ? Ah, on pourrait faire... On aimerait bien. On pourrait demander éventuellement, effectivement, on pourrait proposer à la cellule communication de l'université de faire de cet élément-là un élément, comment dirais-je, un événement. On pourrait.
Est-ce que vous avez la mémoire des lauréats des 4, 5, 6 dernières années ? Est-ce qu'il y a un registre qui est tenu ? Est-ce qu'il y a un entretien un peu de leur mémoire aussi, de ce qu'ils ont fait, de leur parcours ? Et peut-être aussi voir en quoi le nouveau lauréat est un petit peu en décalage ou en différence par rapport à ses prédécesseurs ? Ou voilà, comment s'inscrit ce concours dans l'avenir ?
Alors tous les ans, au moment de l'Assemblée générale, on remet un peu une synthèse des différents dossiers. C'est-à-dire que les adhérents de l'ASA ont cette synthèse des différents dossiers et connaissent effectivement le parcours des uns et des autres. Donc c'est ce qui se fera encore cette année. Il y aura encore un petit dossier, 4 pages, qui permettra de retracer le parcours. Donc on l'a, de ce point de vue-là. On a ce suivi. Ce qui est sûr, ce à quoi on essaye de veiller, c'est de faire en sorte que, et c'est ce qu'on souhaite, c'est que tous les secteurs de l'université puissent être effectivement valorisés à travers ce prix. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être plus facilement, parce que ça correspond à des secteurs plus professionnels, je pense en particulier à des formations d'ingénieurs, hein, mais il y en a aussi qui sont de la formation d'adultes ou à d'autres formations en biologie.
Donc on va rappeler les grands domaines, hein. Ça peut être le domaine scientifique ou technologique, ou sciences humaines ou gestion, ou même peut-être aussi d'ailleurs sciences de l'éducation.
Bien sûr.
Donc voilà, on va dire que l'ensemble de ces champs disciplinaires accueille de nombreux auditeurs hein, dans l'université. Est-ce que dans la durée, on retrouve parfois des gens qui ont été auditeurs et qui reviennent dire bonjour ou qui repassent peut-être un jour comme anciens de l'ASA, non, c'est possible qu'il y ait un jour une filiale de l'ASA avec les anciens?
Il y en a encore trop peu. On pourrait à peine faire une association avec
les Ça viendra.
Espérons-le, oui, mais pour l'instant, on n'en est pas encore rendu là.
L'association des lauréats du prix André Lebrun.
Pour André Lebrun. Oui, pourquoi pas, ça serait une bonne idée, ça.
Voilà. Et puis, ils feraient un repas tous les ans. Je pense que ça pourrait être sympa, mais quand même.
Pourquoi pas ?
Parler de leur histoire.
Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai, pour les accueillir tous
ici, pour qu'ils racontent leur parcours.
Pourquoi pas ? Malheureusement, il y en a une qui ne pourra pas venir parce qu'elle est décédée quelques jours après avoir pris André Lebrun, parce qu'elle avait un cancer.
Ouais.
Et elle a fait effectivement ses études tout en ayant son cancer. Bon, il y a donc des cas. Mais on pourrait effectivement, ça serait une bonne idée.
Mais je pense, oui.
Ah, une bonne idée d'inviter pour qu'ils nous racontent leur histoire. Voilà. Pourquoi pas ?
Donc ce sera une nouvelle aventure sur Radio Campus.
Absolument.
Merci Jacques Duvaux. Donc, j'allais dire rendez-vous pas au public, puisque c'est une association, une assemblée générale privative, on va dire. Mais ce sera le 20 mai, et puis vous nous raconterez peut-être un jour avec vos lauréats précédents leurs histoires.
Absolument. Ça peut se faire parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Ce sont des tranches de vie. Ce sont des tranches de vie qui méritent d'être connues et qu'il faut voir, comment dirais-je, qu'on peut partir de pas grand-chose et progresser. On mesure aussi toutes les difficultés économiques, sociales, effectivement, que ces auditeurs rencontrent.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Bonne journée. Info, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, pas avec moi, mais avec Arnaud qui va me remplacer pour 5 semaines. Bonne chance, Arnaud. Thank you.